L'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, la Bible parle ici d'un mariage, en quelque sorte, mais pas d'un mariage physique de Jésus, mais d'un mariage spirituel. Il n'est pas marié avec une femme, il est marié avec l'Église. L'Église est appelée sa fiancée. Paul dira dans les Corinthiens, 2 Corinthiens 11, « Je vous ai fiancé à un seul époux, à Christ. » Donc, Christ a une fiancée, c'est l'Église. C'est l'ensemble des croyants, des chrétiens, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à son retour. L'Apocalypse nous parle d'un jour où le mariage aura lieu, des noces de Jésus, appelées l'agneau, Apocalypse 19, versets 7 à 9, aussi au chapitre 21, c'est un événement encore à venir. Donc, l'épouse de Christ existe, mais c'est l'Église. Ce n'est pas une femme, la Bible est claire là-dessus. Or, la thèse développée par Dan Brown, c'est que le Graal, ne serait pas la coupe de la scène ou le sang de Jésus, mais le Graal serait une femme. Voilà, ça c'est toute la tête. Le Graal, vous savez, la quête du Graal, où on recherche cette coupe de la Sainte Seine, le sang de Christ, enfin, ce ne sont pas des choses qu'ils cherchent, mais bon, toujours est-il qu'ils n'ont jamais trouvé parce que ça n'existe pas. Mais voilà, ça serait une femme, Marie de Magdala, Marie Madeleine. Les noces de Cana seraient leur mariage. Dans Jean chapitre 2. Et il y aurait eu une descendance dont l'héroïne du roman, qui s'appelle Sophie Neveu, retenez bien ce nom parce que c'est symbolique le nom, Sophie, Sophia la sagesse, Neveu, nouvelle, la nouvelle sagesse. Donc il y a tout un message derrière. C'est un peu comme dans le film Les Visiteurs, vous savez, vous avez vu ce film quand il rencontre la descendance, la petite fillotte, comme il dit, n'est-ce pas? Donc cette héroïne serait la descendante de Jésus. Ça, c'est tout le thème. Alors, c'est un succès phénoménal, ce livre. Hein. 35 millions d'exemplaires vendus. 35 millions d'exemplaires. Un film qui va sortir au mois de mai. À quoi cela tient-il? D'abord, c'est un roman historique. Les gens aiment bien les romans. Beaucoup aussi. Vous savez, qu'est-ce qui se lit le plus? Ce sont les romans. Et puis en plus, quand c'est historique, hein, il y a quand même un côté, on se dit quand même peu vrai, quoi, hein, même si c'est romancé. La femme de Dan Brown est une historienne, histoire de l'art, une passionnée par Leonardo da Vinci, d'où Da Vinci Code, hein, il y a eu un réel travail de recherche sur les Templiers, sur les cathares, sur Leonardo da Vinci, sur l'ésotérisme et le gnosticisme, etc., etc. Donc tout ça donne au roman quand même un support sérieux, hein, je veux bien, parce qu'il y a des recherches, il y a des histoires authentiques, on verra qu'il y a aussi des suppositions, des extrapolations. Alors, pour expliquer tout cela, il faut remonter en arrière vers ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Les évangiles apocryphes. Parce que la théorie de Barnes se fonde sur l'évangile apocryphe dit de Philippe. L'apocryphe, c'est quoi? Alors, apocryphe, ça veut dire caché, hein, en grec, sont des écrits religieux qui existaient déjà pour l'Ancien Testament, mais qui ont été aussi rédigé à l'époque du Nouveau Testament, plutôt après les écrits de notre Nouveau Testament, d'ailleurs plutôt dans l'ensemble et au-delà. Donc c'est des écrits religieux qui se disent inspirés de Dieu, mais qui n'ont jamais été reconnus comme étant inspirés de Dieu par les premiers chrétiens, et n'ont jamais été inclus dans le Nouveau Testament. Alors, ces évangiles apocryphes s'intéressent surtout aux parties cachées de la vie de Jésus. Donc, pour ça aussi on appelle apocryphes cachés. Par exemple, ils disent, on ne sait pas ce qui s'est passé entre la naissance de Jésus et l'âge de 12 ans. Alors on va écrire sur le sujet un peu, on va imaginer ce qui a pu se passer. Puis on va faire passer ça comme étant l'esprit de Dieu. Ou alors, ils vont écrire sur la période entre la mort et la résurrection de Jésus. Pendant les trois jours, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jésus est allé en enfer. Aux enfers. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors on vient d'imaginer, donc c'est un Nicodème, l'évangile de Nicodème, notre Nicodème, aurait écrit tout ce qui se passait à ce niveau-là. Alors l'évangile le plus connu à ce niveau-là, c'est l'évangile de Jacques. On appelle le pré-évangile, le proto-évangile, parce qu'il écrit plutôt avant l'évangile, c'est-à-dire qu'il va raconter tout ce qui se passe avant la naissance de Jésus. Imaginaire, hein, parce que ces écrits sont quand même plus tardifs, vers 150 après Jésus-Christ, plus tardifs que nos évangiles, et donc les premiers chrétiens qui connaissaient et qui étaient quand même très proches des événements, on dit mais tout ça c'est des fables. Mais vous allez voir que ce qu'a écrit ce dénommé Jacques, eh bien va beaucoup influencer le catholicisme, pas vraiment. C'est lui, dans son évangile, qui va mentionner la mère de Marie, Anne. Dans le catholicisme, on dit que Marie avait une mère qui s'appelait Anne. Mais l'évangile ne le dit pas. Mais l'évangile de Jacques le dit. Alors cette Anne, elle ressemble beaucoup à la mère de Samuel et l'histoire est presque identique. Elle reçoit une promesse comme quoi elle aura, non pas un fils, mais une fille. Et donc il y a beaucoup de choses qui étaient appliquées à Samuel ou à Jésus qui vont être appliquées à Marie maintenant dans cet évangile. Ce qui frappe, c'est que Marie occupe dans cet évangile la place centrale. Bon, nous savons déjà que la place de Marie commence à grandir de plus en plus dans certains écrits. Ça parle d'une naissance miraculeuse de Marie, et ça c'est l'origine de la doctrine catholique de l'Immaculée Conception. C'est-à-dire on reporte sur Marie ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus qui est né miraculeusement, on reporte sur Marie. Et on dit, mais Marie, elle est née miraculeusement, elle est née sans péché. Et c'est de là que tire ce théorème catholique. Donc, il faut le savoir, ce n'est pas dans les évangiles, c'est dans les évangiles apocryphes, dans les évangiles qui ne sont même pas reconnus par les catholiques d'ailleurs. Et c'est là aussi qu'il mentionne que Jésus serait né dans une grotte. D'où la grotte de Noël. Ce n'est pas dans les évangiles. Il règle aussi la question de la virginité perpétuelle de Marie, en disant que les frères et sœurs de Jésus dont parlent les évangiles ne sont pas vraiment les frères et sœurs de Jésus, ce sont en fait les enfants d'un premier mariage de Joseph. Joseph est un homme très âgé, qui a eu une première femme, qui a eu des enfants, des fils et des filles, et puis sa première femme est décédée, il s'est remarié avec une jeune femme, Marie. Et donc, les frères et sœurs de Jésus, ce sont les enfants d'un premier mariage. Voilà, on règle la question comme ça, Marie peut être vierge, elle peut très bien ne pas avoir eu d'enfant après Jésus. Mais tout ça, ce n'est pas dans l'évangile, c'est dans l'évangile de Jacques, qui est un évangile tardif, hein, et qui n'a pas été reconnu par lui. Vous avez un deuxième évangile, l'évangile de Pierre, qui a été écrit entre 150 et 200. Alors Pierre, il est mort depuis longtemps, bien sûr, mais cet homme s'appelle Pierre pour authentifier son évangile. Il a été retrouvé au 19e siècle seulement. Et ça, c'est un évangile qui a des influences gnostiques, on verra ce que c'est. Alors voyez, voilà ce qu'il enseigne. Il enseigne que l'humanité, les souffrances et la mort de Christ ne sont qu'apparence. Ce n'est pas la réalité. Christ n'a pas vraiment souffert. Christ n'est pas vraiment mort. Son corps humain, oui, mais pas lui. Il a été enlevé au ciel avant de connaître la souffrance et tout ça. Et ça, ça a donné les sources de l'islam. Le Coran, l'islam, tire ses sources de cet évangile de Pierre qui dit que Jésus n'est pas vraiment mort. Avant de mourir, il a été enlevé. Et sur la croix, il y avait quelqu'un qui l'a remplacé, ou il y avait un corps. C'était plus Jésus. C'était quelque chose de l'apparence. Donc vous voyez comment tous ces évangiles ont été la source de faux enseignements, de fausses doctrines. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui par rapport à Da Vinci, c'est le gnosticisme. Nos ici, ça vient du grec gnosis, qui veut dire la connaissance. C'est un mot qu'on trouve souvent dans le Nouveau Testament, la connaissance. Mais ce mouvement philosophique, religieux, ne vient pas de la Bible, il vient des philosophies grecques et orientales. Et ce qu'il enseigne, c'est qu'il y a une séparation absolue entre Dieu qui est le bien et le monde matériel qui est le mal. Tout ce qui est matériel est mauvais, c'est péché. Dieu est que Dieu et tout ce qui est spirituel qui est bon. Pourtant, ils disent que l'être humain est divin, mais que c'est son corps matériel qui l'empêche de le reconnaître. Donc, le salut, dans le gnosticisme, le salut, c'est se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, n'est-ce pas, hein, la connaissance de soi. Si on se connaît, alors c'est plus du tout la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de soi. Si on se connaît soi-même, on se rend compte qu'on est divin. Donc, plus besoin de Jésus-Christ, plus besoin de sacrifice. Hein. Vous êtes des dieux. Ça vous rappelle rien, ça. C'est dans la Genèse, chapitre 3, Satan qui a dit, mais vous serez des dieux. Vous serez comme des dieux, vous serez comme des dieux. Voilà le message. Christ, en fait, serait venu révéler cette vérité. C'est pour ça qu'il est venu, d'après le gnosticisme. Il est venu révéler cette vérité. Mais tout ça, il n'a pas dit à tout le monde, bien sûr. Parce que dans le gnosticisme, on ne dit pas tout à tout le monde, on le dit à des initiés. Donc pendant ces 3 ans de ministère, ceux que vous lisez les évangiles, c'est de l'eau de rose et tout ça. Il n'y a rien d'important maintenant. Il dit rien d'important. Ce qui est important, c'est ce qu'il a dit entre son ascension, entre sa résurrection et son ascension pendant 40 jours. Il a donné des cours intensifs à ses disciples, des cours où il leur a révélé des vérités cachées. Un enseignement caché, donc ésotérique, c'est ça que c'est pas le terme ésotérique, caché, n'est-ce pas? Connaissance plus élevée que ce petit groupe d'initiés pouvait comprendre et connaître et qui ne devait pas révéler, devait le garder et le révéler uniquement aux initiés. Donc les non-initiés ne pouvaient rien comprendre. D'où ces écrits, voilà, ensuite qui ont été faits, réservés à des initiés, mais bien évidemment tout ça n'a rien à voir avec le Nouveau Testament des Évangiles. Donc voilà le message. Le message, c'est que nous arrivons à la connaissance de Dieu par la connaissance de la vérité sur nous-mêmes. Alors, c'est-à-dire que nous devons prendre conscience que nous sommes divins. Alors ça, c'est le nouvel âge. Donc, tout ça pour dire que finalement, on va voir que le code de Vinci, ça va tout à fait dans cette mode actuelle du nouvel âge qui dit, voilà, vous êtes des dieux. C'est la nouvelle sagesse, mes amis. La Sophie Neveu, c'est la nouvelle sagesse. C'est ça que ça veut dire. La nouvelle sagesse, mes amis, c'est de rendre compte que vous n'avez pas besoin de Dieu, vous êtes Dieu. Mais vous êtes Dieu, vous êtes parmi d'autres, alors il faut vous examiner, chercher à quoi nous mettre. Alors, qu'est-ce qui est passé? En 1945, on a découvert en Haute-Égypte une bibliothèque à Nag Hammadi. Vous trouverez ça partout, hein. Une bibliothèque qui date du 4e siècle, dans 300 et quelques. Bibliothèque, donc, qui contient des vieux manuscrits. Et parmi ces manuscrits, l'évangile de vérité d'un certain Valentin qui aurait vécu vers 150 aussi. Alors lui, il nous explique comment tout ça est arrivé. Il dit voilà ce qui s'est passé. C'est qu'il y avait un être divin. Alors ça, c'est un mélange. Hein. On voit bien le mélange là avec des philosophies, le gnosticisme, c'est plus l'évangile. Il y avait un être divin qui s'appelait Sophia. Un être divin qui s'appelait Sophia, qui a péché avec un demi-dieu, démiurge. Vous savez que dans ces sectes gnostiques, la sexualité, c'est un péché. Le mariage, c'est une souillure, c'est tout ce qui est matériel, ce qui est physique, c'est un péché. Donc, un péché, et donc en péchant, il y a une relation avec un demi-dieu, ça a entraîné la création du monde. Voilà. Ah, l'alliance de Sophia avec un demi-dieu, ça a entraîné la chute et la création du monde, voilà. Le monde matériel. Et il y a un autre manuscrit qui s'appelle la fidèle Sophia, qui dit que Jésus ferait le récit, donc dans ce manuscrit, ferait le récit de son trajet à travers les cieux. Quand Jésus est descendu du ciel, quand il est remonté au ciel, il raconte tout ce qu'il fait, surtout quand il est remonté. Quand il remonte au ciel, il rencontre Sophia. Il rencontre Sophia, la mère de la terre, qui a chuté dans le monde matériel, le monde mauvais. Jésus va la rétablir dans son état originel, afin qu'elle devienne sa conjointe. Je cite, « Le Fils de l'homme s'accorda avec la sagesse Sophia,
Alors là, la Bible dit le contraire, c'est que l'Évangile ne s'accorde pas avec la sagesse humaine. Rappelez-vous 1 Corinthiens, chapitre 1, on lira, la sagesse du monde est une folie pour Dieu. Et donc là, voilà, ils veulent accorder, ça c'est toute la pensée à ce moment-là, on veut accorder la sagesse, la philosophie humaine avec l'Évangile. Donc le Fils de l'homme s'accorda avec la sagesse Sophia, sa conjointe, sa masculinité est appelée sauveur et sa féminité sagesse. Comprenez qui pourra, mais voilà. Donc, tout ça c'est important parce que ça nous amène dans notre sujet. Dans son livre, Dan Brown mentionne ces choses-là. Alors, il mentionne. Je vais perdre ma dernière minute parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je reviendrai, j'ai sauté une page. Alors, j'arrive maintenant à l'évangile de Philippe, c'est ça, oui. C'est l'évangile de Philippe qui mentionne. L'évangile de Philippe, qui est un de ces évangiles importants, qui est plus tardif, 2e ou 3e siècle. Cet évangile place les femmes au premier plan, dont Marie-Madeleine. Et donc, dans cet évangile, on trouve un texte, et ça, c'est le texte clé pour Dan Brown, il faut bien le savoir. Or, ce texte clé, dans les manuscrits, est incomplet. Vous savez, dans les manuscrits, souvent, les vieux manuscrits, ils sont abîmés, ils sont détériorés. Et parfois, il y a des trous. Bon, on peut mettre son nom dans les trous, hein, boucher et trouver des mots. Je vais vous lire le manuscrit tel qu'il a été trouvé, il est incomplet. Hein. Et le compagnon des 3 points. Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine, 3 points. Elle, plus que 3 points. Les disciples, 3 points. L'embrassa, 3 points. Sur ça, 3 points. Alors, à partir de là, Dan Brown traduit, le Seigneur embrassait Marie-Madeleine souvent sur la bouche. Bon. Conclusion, elle était sa compagne, qui change le mot le compagnon, hein, le compagnon par compagne. N'est-ce pas? Et puis comme il l'embrassait de cette manière, manifestement, elle devait être sa compagne. Donc vous voyez comment on peut, à partir de manuscrits incomplets, le mettre des mots qu'on veut mettre dessus, et en déduire toute une théorie, n'est-ce pas, qui ne tient pas debout. Tout ça, je le tire aussi d'ouvrages sérieux comme Historia, Historama, des magazines, et qui ont, des historiens qui ont fait des recherches, qui ont dit que ça ne tient pas debout, il n'y a pas de fondement. C'est vraiment des extrapolations. Mais hélas, vous savez que nos semblables, ils se précipitent sur ces choses-là, ils sont friands de tout ce qui pourrait remettre en question l'Évangile, n'est-ce pas? Donc, ça c'est la base, il faut le savoir, il n'y a pas de texte clair là-dessus, c'est une supposition, il n'est jamais dit que Jésus a épousé Marie-Madeleine, et les manuscrits ne parlent de rien d'autre, il y a des trous dedans, on peut supposer ce qu'on veut, que Jésus-Christ embrasse ses disciples, c'était possible, il y avait le baiser fraternel, c'est mort, mais ça s'arrêtait là. Et en plus, le texte n'est pas assez clair pour en dire plus. Mais Dan Brown a d'autres arguments. La célèbre peinture de Leonardo da Vinci, n'est-ce pas la scène,
oui.
Figure à la droite de Jésus un personnage jeune.
Jean.
Oui, pour nous c'est Jean. Mais attention, on a fait des analyses précises, on a étudié ce personnage jeune qui n'a pas de barbe à la différence des autres. C'est une femme, ça serait une femme, ça serait Marie-Madeleine, ça serait sa femme. Et Leonardo da Vinci, n'est-ce pas, qui, on verra plus tard, qui ferait partie d'un ordre particulier, hein, l'ordre du prieuré de Sion, n'est-ce pas, au musée de Saint-Antoine, etc. C'est lui qui aurait fait figurer sur la scène Marie-Madeleine, c'est pas pour bien montrer qu'elle était épouse de Christ. Bon, alors, de toute façon, ça n'engage que Leonardo da Vinci, qui n'est pas présent à la Seine-Seine. Hein. Ce qu'il a peint, il n'était pas là, n'oublions jamais. Hein.
C'est ça.
Ceux qui représentent, il n'était pas présent, lui a vécu au 15e siècle, donc il n'était pas présent à la première scène, donc tout ce qu'il fait, c'est imaginaire. Ça n'engage que lui. Mais en plus, je ne crois pas que c'est ça, comme l'a dit, c'est Jean. Pourquoi Jean a été présenté jeune sans barbe? Parce que Jean était très jeune, c'était un jeune homme, Jean. Il n'avait pas de barbe à l'époque, certainement, il était jeune, c'est tout. Ça, c'est tout. C'était le disciple bien-aimé de Jésus. Hein. Et il faut s'arrêter là, il ne faut pas chercher plus. Alors, dans son livre, Dan Brown mentionne une société secrète, le prieuré de Sion, chargé de préserver le secret du mariage de Jésus et préserver aussi la descendance de Jésus. Alors, le problème, c'est qu'après recherche, vous savez, bien sûr, les historiens ont fait des recherches, j'ai lu le résultat de la recherche, c'est que le prieuré de Sion n'a jamais existé. Sauf que c'est une association 1901 qui a été fondée en 1956, donc ça n'a rien de médiéval, n'est-ce pas? Et Leonardo da Vinci n'a pas pu en faire partie, parce que dans son livre, il dit que Leonardo da Vinci était le grand maître du prieuré de Sion, de cet ordre de chevalerie. En fait, ça n'existait pas, c'est quelque chose de très récent, qui a été créé en France, une sorte d'ordre de chevalerie catholique qui prétend détenir le trésor perdu du temple, en disant que ce trésor n'est pas historique ou financier, mais que c'est quelque chose de spirituel. En fait, bon, c'est eux, ils prétendent aussi un peu cette idée, bon, c'est pas très clair non plus, mais ils prétendent qu'ils sont les descendants de Jésus. Le fondateur s'appelle Plantard. C'est un passionné d'ésotérisme et d'occultisme, fasciné par le nazisme et anti-juif. Bon, avec tout ça, rien de très glorieux ni de très public, n'est-ce pas? Donc là-dessus, danger. Donc, ça ne tient pas debout, tout cela. Alors, troisième thèse, bien sûr, c'est le fameux complot du Vatican et de l'Église catholique. C'est une thèse qui revient tout le temps. L'Église catholique complote depuis longtemps, mes amis, depuis longtemps. Ils vous ont trompé. C'est-à-dire que quand l'Église catholique a pris le pouvoir, ils ont mis de côté les évangiles qu'on appelle aujourd'hui apocryphes, comme l'évangile de Philippe, qui était trop dérangeant, et ils n'ont retenu que les évangiles arrangeants. Alors, comme dit quelqu'un, l'Église à l'époque n'avait pas le pouvoir de faire ça. Il y avait trop de témoins, le lien des premiers chrétiens, ce n'est pas les premiers écrits. Comment aurait-on pu cacher une telle chose que Jésus était marié, par exemple, donc il aurait une descendance? Comment aurait-on pu rejeter délibérément des évangiles qui auraient dit ces choses-là? Ça paraît difficile de le penser, ça paraît difficile de croire. On peut dire tout ce qu'on veut là-dessus. Ils disent aussi que l'Église catholique aurait volontairement terni la réputation de Marie-Madeleine en la faisant passer pour une prostituée. Alors, on n'est pas sûr, effectivement, de ce qu'était Marie-Madeleine. On peut lire Luc 8, verset 2. Il est certain que c'est une femme pécheresse. Luc 8, verset 2, nous disons. On peut toujours accuser l'Église tout ce qu'on veut, mais allons dans les évangiles. Hein. Quand on lit les évangiles, si on fait confiance que ces évangiles sont dignes de foi, cela nous suffit. Luc 8, verset 2. Les douze étaient auprès de lui, de Jésus, donc avec quelques-unes des femmes, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Donc tout ce qu'on apprend, c'est que c'est une femme qui était démoniaque. Hein. Qu'est-ce qu'elle avait fait? On ne sait pas. Certains pensent que c'était peut-être une prostituée qui est mentionnée ailleurs dans les évangiles, hein, qui a répandu le parfum, mais ça, c'est pas explicite forcément toujours. Elle n'est pas toujours mentionnée par son prénom. En tout cas, quoi qu'elle ait fait, elle a été délivrée, elle a été pardonnée. Donc, quand on vient au Seigneur, ce qui compte, c'est le pardon. Quoi qu'elle ait fait, ça n'amène rien. Alors, le nom même de l'héroïne du roman Sophie Neveu doit nous mettre la puce à l'oreille, comme je l'ai dit, mais ça veut dire Sophie Sagesse, Sophia Sagesse, Neveu, Nouvelle Sagesse. Donc, c'est le message ésotérique du salut par la sagesse, par la connaissance, présenté à la sauce moderne. C'est un bon roman policier, ce sera sûrement un film plein d'action, de mystère, de beaucoup d'imagination. Et mes amis, tout ça ne devrait pas nous ébranler plus que ça, parce que si nous connaissons la Bible, nous savons que Jésus n'est pas venu pour se marier ou pour fonder une famille. Marc, chapitre 10, verset 45, nous dit pourquoi Jésus est venu. Marc 10, 45, nous disons. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu pour autre chose, il est venu pour donner sa vie. Il est venu pour s'offrir un sacrifice comme une rançon pour nos péchés. Pour nos péchés. Donc, ça, c'est le message de l'Évangile. Vous savez, le but, une fois de plus, avec ces écrits et ces films, c'est de salir la personne de Jésus. En faisant croire que voilà, il a une vie comme les autres, il a une descendance. D'ailleurs, le livre dit que la descendance de Jésus, même ce mouvement-là, le Triumvirat de Sion, la descendance de Jésus, ce sont les Mérovingiens, les rois de France, descendent de Jésus, n'est-ce pas? Et cet homme, le plantard qui a fondé le Triumvirat de Sion, descendrait directement du roi d'Agobert.
Voilà.
Donc Jésus n'était pas vraiment ce qu'il était, pour eux. Il n'était pas un fils de Dieu, c'était un homme, voilà. Non seulement on ne le compte pas, ce sont ses paroles qui comptent, son enseignement, n'est-ce pas? Et encore, pas celui que vous avez dans les évangiles, mais comme j'ai dit, celui qui est caché dans les hypocrites. Donc le message c'est sauvez-vous vous-même, prenez conscience de votre divinité, etc. etc. Toujours un message à une nouvelle sauce, mais tout ça, ce n'est pas l'évangile. Colossiens chapitre 2 nous dit ce que Paul pense de tout ça, parce qu'à l'époque, ça existait déjà le gnosticisme, bien sûr, c'est cette époque-là que ça a été rédigé, à peu près, c'est pour l'évangile. Colossiens chapitre 2. Donc, c'est même pas la peine d'avoir le film, autant je vous dis, allez voir Narnia. N'allez pas voir ce film, hein. C'est pas la peine, c'est blasphématoire. Hein.
Non, oui. Pas
l'air.
Vous l'avez
non, j'ai pas lu.
Vous l'avez
demandé à quelqu'un de faire un résumé qu'il avait lu. Je n'ai pas lu, non, j'ai demandé un résumé. J'ai demandé un résumé du livre, quelqu'un qui l'avait lu, donc ça m'a suffi. Il vient de commencer le livre, donc le continuer. Non, ça n'apporte rien, quoi, c'est l'essentiel. Ça me suffit, quand j'ai lu beaucoup de commentaires sur ce sujet. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 8, Paul nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, c'est-à-dire voilà, sur les philosophies, les pensées humaines. Prenez garde. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est important, ça. Parce que eux ne disent pas ça. Rappelez-vous, ils disent que non. Pas possible que Dieu, qui est esprit, se souille avec un corps humain. Donc, il est dit là, si toute la plénitude de la divinité habite dans un corps, en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, nous dira Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5. Hein. Jésus-Christ était pleinement Dieu et complètement homme. Et il n'y avait rien d'impur là-dedans. Le verset 10 nous dit « Vous avez tout pleinement en lui. » Ça, c'était le morceau de verset que j'ai choisi quand j'étais encore célibataire, n'est-ce pas, et que j'habitais encore déjà toujours, n'est-ce pas, j'ai toujours se caché avec mon adresse, et j'ai mis mon adresse et dessous un verset. Tu me dis ça pour faire ça, d'avoir une adresse avec un verset biblique. Alors j'ai marqué « J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. » Parce qu'à l'époque, vous savez ce que c'est quand on est jeune, donc on a 25 ans, qu'on n'est pas marié, qu'on n'a pas encore un travail, si on dit, quand est-ce que tu vas te marier, comment tu vas faire pour vivre, qu'est-ce que tu vas faire comme travail, qu'est-ce que tu vas devenir, etc. etc. Moi, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Voilà. Je suis content avec lui, j'ai tout pleinement en lui, le Seigneur pourvoira et prendra soin de moi. Donc voilà, donc, et c'est vrai pour nous aujourd'hui, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous avons le salut en Jésus-Christ. Et s'il y a un mystère, parce qu'ils aiment bien les mystères dans ces milieux-là, s'il y a un mystère qui est caché, il est maintenant révélé. Regardez, chapitre 1 de Colossiens, verset 24. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, dit Paul. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est Christ. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Voilà, le mystère, voilà, ça veut dire le mystère qui est caché, mais il est révélé maintenant. C'est quoi ce mystère? On sait que c'est l'Église, mais c'est aussi Christ, hein, Christ. On va le voir, verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà le mystère. C'est Christ. On peut avoir Christ en nous. On peut avoir Jésus-Christ dans notre cœur. C'est lui que nous avançons. Et puis plus loin, chapitre 2, verset 2, la fin du verset 2, il parle d'être enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Le mystère de Dieu, il y en a un, oui, c'est Christ. Jésus-Christ, c'est tout. Mystère dans lequel sont cachés, si vous aimez les trésors, moi j'aime beaucoup les trésors, je suis passionné des trésors. Hein. Quand j'étais jeune, c'est un peu ça qui m'a amené au Seigneur, parce que moi j'aime beaucoup l'archéologie, j'aime faire des fouilles, tout ça. Hein. J'aime bien l'histoire du trésor. Vous n'avez pas ça, l'histoire du trésor, hein. Faut le trouver. Alors j'écoute ça, j'ai trouvé le plus beau trésor. Hein. C'est... En fait, je cherchais un trésor quand je me suis converti. Je cherchais un trésor dans les Pyrénées, il y avait un château là. Je faisais un camp d'archéologie, on creusait pour trouver. J'ai rien trouvé, mais j'ai trouvé Christ. Parce que quelqu'un qui m'a parlé du Seigneur, j'ai trouvé le plus grand trésor, j'ai trouvé Christ, mes amis. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà, ces gens cherchent la connaissance. La sagesse, mais elle est là. Jésus-Christ est ma sagesse. Vous avez la sagesse en Jésus-Christ. Si vous avez Christ, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et toute la connaissance qu'il vous faut. Cela vous suffit. Christ en vous. Christ et l'Église. Alors voilà le couple biblique, c'est ça. Oui, Christ, l'épouse, c'est l'Église, c'est vous. Vous faites partie de cette église, vous faites partie du corps de Christ, voilà, et cela vous suffit, mes amis. N'allez pas chercher ailleurs, dans une nouvelle sagesse, qui en fait n'est pas une nouvelle sagesse, c'est toujours la vieille histoire du jardin d'Éden, de Satan qui veut vous faire croire que vous êtes des dieux et non pas des pécheurs. On ne veut pas.